Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, le 19 mars dernier, la ministre de la Culture, Madame Aurélie Filippetti, remettait 7 tableaux de maître aux descendants de 2 grands collectionneurs, Richard Neumann et Joseph Wiener, et relançait le sujet de la restitution des œuvres d'art sur la scène médiatique. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la sénatrice et historienne Corinne Bouchou, la rapporteuse pour le Sénat d'une commission qui s'intitule « Œuvres culturelles spoliées ou au passé flou et musée public, bilan et perspective ». Corinne Bouchou, vous venez également de publier « Si les tableaux pouvaient parler, le traitement politique et médiatique des retours d'œuvres d'art pillées et spoliées par les nazis aux presses universitaires de Rennes ». Bonjour, je voulais tout d'abord vous demander, vous étiez présente, Corinne Bouchou, à cette cérémonie de remise des tableaux, c'était un symbole important pour vous ?
Oui, j'étais présente. Il y avait d'autres sénateurs, le sénateur David Assouline et la sénatrice Marie-Yvonne Blondin, donc tous les deux membres de la commission culture. Il y avait aussi la députée Isabelle Attard, qui était archéologue et qui était antérieurement directrice du musée de Bayeux. Donc moi, je me réjouis à la fois de cette restitution. Je me réjouis aussi de la présence importante des parlementaires. À ma connaissance, c'est la première fois que des parlementaires assistaient à ce type de cérémonie. Je me réjouis aussi de l'annonce, et j'espère que ça ne sera pas qu'une annonce, d'une vraie politique proactive et volontariste des musées de France, ce qui constituerait tout de même une rupture avec l'histoire récente.
Alors justement, avant de revenir au présent et à ces propositions, je voudrais, Corinne Bouchou, qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé pendant la guerre, de revenir à 1940. Comment s'est passé ce pillage et si on peut faire un bilan du nombre d'œuvres d'art qui ont été pillées par les nazis à la fin de la guerre.
Alors c'est une histoire qui est à la fois une histoire douloureuse et est extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un pillage simple. Il y a eu une superposition de 3 à 4 types d'opérations menées par des commanditaires différents, avec comme seul point commun, je dirais, la volonté de spolier et un antisémitisme forcené. Les types de pillage ont été assez différents, ce qui a pu expliquer une certaine confusion. Néanmoins, en dépit de ces modes de pillage différents, il y a eu quand même un point commun, c'est que la quasi-totalité des œuvres prises à Paris, et en tout cas en région parisienne, presque toutes ont transité, ou en tout cas un grand nombre, a transité par le jeu de paume, où ces œuvres étaient emballées, étaient mises en fiche. Et là, je dirais que dans ce désastre, il y a eu une chance, qu'il y ait eu une personne qui a pu avoir ce réflexe étonnant de faire un double d'un certain nombre de fiches et, je dirais, de garder, on dirait maintenant, le terme est impropre, mais une certaine traçabilité, c'est-à-dire d'identifier les œuvres, leurs auteurs, parfois et souvent leur provenance et surtout leur destination.
Parce que le jeu de paume, c'est bien ça, à l'époque, était un musée un petit peu excentré qui servait presque de salle d'exposition pour les hauts dignitaires nazis qui venaient choisir les œuvres qu'ils voulaient emporter en Allemagne parmi les œuvres qui avaient été spoliées. C'est un peu ça, l'idée.
Alors, en fait, c'était un centre de stockage et de triage où il y avait une quantité importante de personnel, hein, des Allemands, des historiens de l'art, et tout ce lieu était un lieu secret. Il fallait un laissez-passer pour y rentrer. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de visites, notamment celle de Göring, relatée par Rose Valland dans ses mémoires. Et donc effectivement, les Allemands venaient observer un petit peu ce pillage, et certains nazis qui étaient d'avides collectionneurs, il y avait vraiment une rivalité entre eux, venaient parfois se servir sur place aussi. Ça, je dirais que c'était le côté galerie de ce funeste pillage.
Et c'est Rose Valland donc qui a noté les destinations, les provenances aussi, c'est très important.
Alors Rose Valland était une bénévole avant-guerre des musées, qui était une dame au parcours étonnant, née en 1898, d'un milieu très modeste, qui était devenue historienne de l'art et qui était bénévole, puisqu'à l'époque il n'y avait pas énormément de fonctionnaires dans les musées, et elle avait organisé quelques expositions. Et donc c'était le lieu où on exposait les collections étrangères. Voilà. Et donc, elle a eu cette activité d'espionnage, tout simplement, pendant l'occupation. Alors, elle n'a pas pu noter toutes les provenances. Il y a notamment des zones d'ombre. Et puis, j'ai retrouvé ça dans les archives, il y a quelques collections qui ont été pillées, qui ne sont pas passées par le jeu de paume. Donc, tout ça est extrêmement complexe. Et donc, il y a toujours une part de mystère en raison de cette histoire particulièrement difficile. Et il y a une chose aussi que je voulais signaler, parce que ça a été bien étudié du point de vue historique par Annette Wiewiórka, c'est tout ce qui avait trait aux opérations meubles, c'est-à-dire tous ces appartements, 48 000 que l'on a vidés, tout, enfin là sur la porte, tout. Il y a eu aussi des tableaux qui ont pu être emportés lors de ces opérations meubles, et là, pour le coup, parfois, on a pu perdre la trace des propriétaires auxquels on avait tout pris et dont beaucoup ne sont pas revenus.
Est-ce qu'on sait à peu près combien d'œuvres ont été pillées par les nazis ?
Alors, c'est très difficile. On peut faire état, après la guerre, de 100 000 réclamations. 100 000 réclamations, il y a évidemment des gens qui ont tout perdu et qui n'étaient plus là pour réclamer. Donc, c'est pour ça que le chiffre est sûrement sous-estimé. Alors maintenant, par convention, on a admis en France qu'il y avait de l'ordre de 100 000 réclamations. Ça ne veut pas dire 100 000 collectionneurs, puisqu'il y avait des grands collectionneurs qui possédaient de très nombreuses œuvres. Si on regarde ce qui s'est passé après la guerre, compte tenu du contexte de l'époque, c'est vrai que les retours ont été relativement importants. Il y en a 40 000 qu'on a complètement perdus. Il y en a 60 000 qui sont revenus en France. Et sur ces 60 000, on en a quand même restitué 75% à leurs propriétaires. Donc c'est énorme compte tenu du contexte matériel de l'époque. L'informatique n'existait pas.
C'était dans l'immédiat après.
Tout à fait, à la libération. Et donc je dirais compte tenu du contexte matériel de l'époque, il ne faut pas faire d'anachronisme. Ce taux de retour est énorme. Maintenant, même si ce taux de retour est énorme, il faut noter ces œuvres que l'on a complètement perdues, dont on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Il y a eu les œuvres qu'on a rendues à leurs propriétaires. Il y a eu des propriétaires qui se sont plaints de ne pas se voir restituer leur dû. Et puis, il y a eu les œuvres pour lesquelles, en apparence, personne ne réclamait. Et donc là aussi, il ne faut pas faire d'anachronisme. Les caisses étaient vides. On a eu une idée à l'époque. On a dit, bien, on va les vendre aux enchères. Les domaines vont les vendre aux enchères. Et ensuite, cet argent rentrera dans les caisses de l'État qui, effectivement, en avait besoin. Et à l'époque, on a simplement préservé 2000 œuvres les plus, alors sur des critères un peu contrastés, on en a mis 2000 de côté, que l'on a confiées avec un décret de 1949, on les a confiées à la garde des musées pour qu'ils soient gardiennés, mais en aucun cas ils n'appartenaient au musée. C'était, si vous voulez, du gardiennage pur et simple, dans l'attente d'une réclamation et d'une restitution.
Donc en gros, 60 000 œuvres à peu près sont revenues d'Allemagne, 40 000 ont été rendues aux propriétaires, 12 000, 13 000 ont été vendues au domaine.
Tout à fait. Donc ça, on a quelque part, ça mériterait peut-être un jour une étude un petit peu approfondie. On a dans des conditions qui ont été jugées tout à fait déplorables par le rapport Schumann de Chermont, on a décidé de vendre 12 à 13 000 œuvres. Alors pourquoi celle-ci, pas d'autres ? C'est très confus. Certaines étaient de qualité douteuse. Il y avait des faux aussi, qu'on n'a pas hésité à revendre aussi, sans délivrer de certificat d'authenticité, ce qui avait au moins le mérite d'une certaine honnêteté. Et donc ça a été revendu. Ça a été un vrai souci, ces ventes. C'est-à-dire que après coup, on s'est inquiété du fait qu'on les ait vendues aux enchères. Donc ça peut être un vrai débat et on peut être en désaccord. Maintenant, il y a une question de fond, c'est qu'il y a eu à l'occasion de ces ventes de véritables délits d'initiés. C'est-à-dire qu'ont acheté les gens qui ont été prévenus en premier. Et donc là, il y a vraiment des choses très tristes qui ont dû se dérouler. Des gens ont dû faire des profits monstrueux alors que d'autres n'ont jamais récupéré leur tableau. Il y a eu des soucis aussi suite à l'exposition qui a eu lieu entre 1950 et 1954. Ça, c'était une bonne intention. On a exposé au château de Compiègne. C'était un peu excentré quand même, mais bon, ça a été fait. On a exposé un grand nombre d'œuvres et on a dit, eh bien, les personnes qui viendraient se plaindre pourront les réclamer. Et là, j'ai retrouvé des documents d'archives qui m'ont un petit peu intriguée parce qu'il y a eu plusieurs centaines de réclamations. Et sur les réclamations, la moitié ont obtenu gain de cause et l'autre moitié des plaignants étaient déboutés. On leur a dit non, vous ne retrouverez pas votre bien. On a invoqué le manque de preuves. Et donc ça, c'était un peu un revirement dans les années 50. En 45, les choses étaient plus faciles pour les propriétaires. La charge de la preuve était, on va dire, relativement souple. En revanche, dans les années 50, il y a des familles qui ont vu leurs tableaux à Compiègne et qui n'ont jamais pu les récupérer. Non.
Dans votre livre, on voit bien justement qu'il y a cette activité extrêmement efficace, donc de la libération, l'immédiate après-guerre. Et puis, entre les années 50 et les années 90, il y a une longue période de silence autour de cette question.
Alors, ça confine à la chape de plomb. C'est-à-dire que vous avez en 1949 le décret qui organise le statut des MNR, donc oui. Les musées nationaux de récupération. On va en exposer un certain nombre sans indiquer leur provenance. Et puis on va en mettre beaucoup de ces tableaux dans les réserves. Et ensuite, il va y avoir un immense oubli collectif qui va être rompu par Rose Vallant, qui va produire un ouvrage donc au début des années 60, qui est un ouvrage intéressant, un petit peu ennuyeux maintenant, puisque c'est une suite de fiches qu'elle a accumulées. Et on va en parler une seule fois au moment où va sortir le film Le Train. Donc c'est Frankenheimer, un Américain, qui va produire un film hollywoodien, une très grosse production américaine. Et là, en France, on va un petit peu en parler avec de la presse. Notamment, il y a eu un article dans Elle et puis dans les revues de cinéma. Mais si l'on accepte ce pic au moment du film Le Train, qui d'ailleurs parle plus des cheminots et de l'héroïsme des cheminots que du sujet des tableaux. Les tableaux sont un prétexte. Alors le film va sortir en 65. D'accord. Et si on accepte cette année 1965, vous avez raison, c'est un immense trou noir. Pour partie parce qu'on a voulu oublier, tout le monde a voulu oublier, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon étude. Maintenant, il y a aussi peut-être certains qui pensaient que le temps faisant son œuvre, on perdrait peut-être le fil de la propriété de ces tableaux et que peut-être...
Voilà. Dans les musées nationaux ?
Oh oui, je pense qu'il y avait, et ça c'est ce qui agaçait beaucoup Rose Vallant et qui l'a rendu assez impopulaire. Rose Vallant, en fait, a jusqu'en 1979, jusqu'à la veille de sa mort, a voulu continuer à restituer. Et donc elle travaillait sur des listes, sur des elle c'était un peu une maniaque des restitutions. Elle savait que on pouvait encore faire des choses. Mmh. Et elle essayait de façon assez isolée de poursuivre les restitutions qui pouvaient être faites, qui l'étaient au compte-gouttes. Hein. Si vous regardez les statistiques, ça a été dit par la ministre, on était de l'ordre d'une poignée.
Alors qu'est-ce qui s'est passé par contre dans les années 90? Qu'est-ce qui a changé?
Alors je dirais que deux événements ont provoqué ce que l'on pourrait appeler la décongélation du problème. C'est un problème qui était une partie de l'histoire qui était congelé. Alors en fait, deux choses. D'abord, bien sûr, la chute du mur de Berlin en 1989, qui va en fait provoquer un bouleversement géopolitique majeur. Et donc, ça va à la fois réveiller les mémoires, réveiller les consciences, poser la question des archives et des tableaux qui étaient dans l'ancien bloc soviétique. Mmh. Et puis, ça va poser une question politique majeure qui est l'Europe, la libre circulation. Et si vous voulez que les choses puissent circuler librement, bah, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Et donc cela nécessitait de régler un certain nombre de sujets, dont celui-là. Et donc les Américains ont les premiers compris cet enjeu intellectuel, mémoriel et politique. Et donc les Américains ont décidé très très vite, dès qu'ils ont compris les enjeux, de déclassifier leurs archives. Ils ont fait ça très tôt, à partir de 1994-1995, parce qu'ils ont compris le problème, notamment pour les musées.
C'est-à-dire déclassifier les archives?
C'est-à-dire que toutes ces archives étaient des archives liées à la guerre, mm-hmm. et un grand nombre de ces archives étaient tout simplement des archives diplomatiques qui pouvaient être classées secret défense.
D'accord, donc on ne pouvait pas y accéder.
On ne pouvait pas y accéder. Et donc les Américains ont eu, suite à un certain nombre d'intervention de différents groupes citoyens américains. Il y a eu une réflexion sur ce sujet et donc un certain nombre de sénateurs américains ont demandé et obtenu la déclassification et l'ouverture des archives et du travail. Et donc les Américains, par centaines, se sont mis à travailler dès le début des années 90 sur le sujet. Et d'ailleurs, je me permets de signaler que les ouvrages sur ce sujet ne sont pas des ouvrages français jusqu'à une date très récente. Vous aviez Lynn Nicholas, qui est une Américaine, qui a travaillé avec des archives américaines. Et puis vous aviez Hector Feliciano, qui a aussi travaillé sur ce sujet. Donc les Américains, conscients du problème, ont, un, ouvert les archives, deux, provoqué des recherches qu'ils ont soutenues en grande partie. En Europe, on a eu une autre stratégie et on m'a dit cette phrase qui résonne encore en moi, pas d'archives, pas de recherche. Pas de recherche, pas de souci. C'était ça, la conception Lean Maginot en France, dans certains milieux, si vous voulez. Et évidemment, avec, c'est le deuxième élément de ma réponse, avec Internet, tout ça ne tient plus, si vous voulez. La position française était une posture intéressante, elle avait son sens intellectuellement, mais ça n'est plus tenable à l'heure d'Internet et à l'heure du tourisme de masse, où un chercheur peut prendre un billet à coût réduit et aller travailler dans les archives américaines. Donc, si vous voulez... La chute du mur de Berlin en un et en deux, la révolution Internet et les emails notamment, ont fait que, et la numérisation que l'on peut faire des archives, ont révolutionné ce dossier et ont obligé tous les pays à se positionner. D'où, en 1998, les principes de Washington. Donc ce sont, à l'initiative des Américains, avec la bienveillance des Russes, 44 pays qui vont s'engager à respecter des bonnes pratiques, 11 principes, tout en expliquant que c'est volontariste et que c'est non contraignant. Donc on est sur un sujet... qui est compliqué pour tous les pays.
Justement, vous parliez d'Internet. Je crois que c'est le site Rosevalent, justement, qui a permis de découvrir certaines œuvres qui n'étaient pas classées MNR et qui, en fait, avaient malgré tout été spoliées grâce à des photos mises en ligne sur le site. Ça veut dire que... Je pense que c'est une des difficultés que vous évoquez dans votre rapport, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les tableaux classés, enfin qui ont le statut MNR, et puis il y a aussi d'autres œuvres dont la provenance est floue et sur lesquelles il n'y a pas eu encore de travail de recherche de provenance parce qu'il n'y a pas eu de réclamation de la part des ayants droit. Donc c'est tout cet embroglio-là que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez remettre de l'ordre, c'est ça un peu le...
Bah écoutez, oui, votre question est bonne et claire à la fois. En fait, il y a deux sujets. Il y en a un que l'on connaît depuis le rapport Schulman de Chermont, donc en 1999, qui fait un état des 2000 MNR. Donc ça, c'est un sujet connu, sur lequel les choses ont bougé, on va dire, assez modérément, mais ça, c'est ce qui était connu. Je pense que l'intérêt de notre rapport du mois de janvier dernier est d'avoir attiré l'attention sur... ce qui est une toute petite proportion, toute petite proportion des collections nationales, mais que l'on ne peut pas éluder, c'est ce qu'on a appelé les œuvres au passé flou, c'est-à-dire des œuvres qui ont pu être achetées de bonne foi, j'y insiste, qui ont pu être données, qui ont pu être confiées, on en parlera sûrement dans quelques mois.
Achetées par qui ? Par les musées ?
Par les musées, d'accord. Ou qui ont pu être confiées par des particuliers au musée pour, par convention, etc., et qui peuvent avoir un passé douteux. Et la réponse... Et pour les MNR et pour ces œuvres au passé flou, tient, selon nous, au Sénat, et les collègues ont partagé cette analyse, à quelque chose que nos conservateurs font assez peu, qui s'appelle la quête de provenance. C'est-à-dire que nous avons considéré au Sénat que les moyens techniques d'aujourd'hui permettent de faire un certain nombre d'investigations beaucoup plus facilement qu'autrefois et qu'il est important de situer une œuvre dans son contexte et surtout de travailler de façon extrêmement rigoureuse sur sa provenance et sa traçabilité. Et donc là, nous demandons qu'il soit fait un véritable travail qui peut être fait à l'occasion du récollement que tout le monde fait. Ça peut être aussi le travail que peuvent faire un certain nombre de stagiaires qui sont affectés dans les musées. Et nous, ce que nous demandons, c'est vraiment un changement de point de vue, c'est-à-dire que tous les nouveaux conservateurs, je dirais, inversent la problématique. Jusqu'à maintenant, les conservateurs nous disaient « Nous, on attend que le téléphone sonne et qu'on nous réclame quelque chose ». Ça peut durer éternellement. Nous disons...
Oui, surtout si l'œuvre est dans une... Même pas montrée, comment effectivement...
C'est une histoire sans fin. Donc si vous voulez, l'intérêt du site dit maintenant Rosevalent, et c'est bien qu'on ait donné ce nom à ce site, c'était en fait le catalogue des MNR qui a été mis en ligne et qui a été extrêmement travaillé avec de très gros progrès, il faut le signaler, par Thierry Bajoux. Thierry Bajoux, c'est ce conservateur qui s'est pris de passion pour ce sujet et qui travaille énormément. Et lui pense, il faudrait le lui demander, mais il pense qu'on peut encore faire des choses. Donc nous ne sommes pas naïfs, nous ne pensons pas que tout pourra être rendu. Nous disons simplement que... Entre tout rendre et ne rien faire, il y a à travailler. Et c'est ce que nous suggérons, que cela fasse partie des missions des conservateurs. Si vous voulez, c'est un enjeu d'histoire, c'est un enjeu de mémoire. Nous ne pouvons pas vouloir attirer 80 millions de touristes en France en vantant notre exception culturelle et les vertus de nos musées, en ayant des musées qui auraient géré de façon lacunaire et coupable ce dossier. Moi, je pense qu'on a vraiment une obligation collective, en tant que citoyen, d'avancer sur ce dossier.
Justement, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les choses avancent et que la France fait ce qu'il faut pour rendre ses musées irréprochables, ou il y a encore du travail ?
Alors, moi, je vois quand même une évolution dans le discours. C'est-à-dire que pour la première fois, si vous comparez les différents discours de toutes les restitutions, jusqu'à maintenant, on était dans l'exception, dans la providence, dans un cas dont on s'étonnait encore qu'il puisse arriver. Si vous regardez un petit peu les propos qui ont été tenus, en tout cas dans les interviews, qu'a donné la ministre Aurélie Filippetti. Moi, je l'ai senti dans ses interviews plutôt volontariste, plutôt enthousiaste et disant vouloir avancer sur ce dossier. Maintenant, nous pourrons simplement voir si cela avance au vu des résultats que l'on pourra nous produire. Et moi, je tiens simplement à signaler que mes collègues députés ont été très intéressés par ce sujet. Nous travaillons de concert avec des membres de la commission éducation culture de l'Assemblée nationale, et que si ce dossier ne devait pas avancer avec suffisamment d'intensité, d'enthousiasme et de résultats, je ne doute pas que mes collègues députés, en tout cas pour la famille politique à laquelle j'appartiens, seraient tout à fait intéressés d'une mission d'enquête ou d'investigation qui, pour le coup, aurait des moyens et des implications beaucoup plus importants que ce rapport d'information. Voilà, nous avons fait un rapport d'information simple qui a été validé par les collègues, mais nous n'avons pas demandé de prestation de serment avant chacun. C'était quelque chose d'assez léger en termes de contraintes et de vérifications. J'espère que nous n'aurons pas allé jusqu'à demander une mission d'enquête. Donc moi, je vais faire le pari d'une nouvelle génération, et je fais confiance aux jeunes conservateurs qui ont quand même appelé leur promotion Rosevalent.
Ah oui.
Et donc je pense que là, en tout cas, eux savent et eux ne resteront pas sans rien faire. Donc moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'avenir et à ces jeunes conservateurs qui voudront faire autrement que leurs aînés.
Est-ce qu'il y a d'autres pays européens dont la politique a pu vous inspirer pour ce rapport, ou en tout cas qui ont eu une politique peut-être un peu plus offensive que celle à laquelle on a pu assister en France ?
Bah écoutez, c'est pas européen, mais c'est très net. Aux États-Unis, on a joué la carte de la transparence et on a ouvert toutes les archives. Donc pour le coup, les chercheurs américains sont noyés sous la masse des documents. Nous, en France, on a un autre problème qui est le très difficile accès à un certain nombre d'archives, dont certaines, visiblement, n'ont pas été encore déclassifiées. Donc moi, je pose la question.
Toujours,
Voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire plus ? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Et moi, je dirais que je suis d'un naturel optimiste et confiant. Si on avait ne serait-ce que deux ou trois doctorants qui, par des bouts différents, s'attelaient au sujet, moi, je pense qu'on pourrait faire des choses, notamment pour les MNR. Je pense que ce qu'il est important de faire, c'est, un, de faire de la recherche de provenance effective. Et là, une fois qu'on aura fait ces recherches, eh bien, on verra ce qui peut aboutir ou ne peut pas aboutir.
Ça sera fait par qui ? Donc par des bénévoles ?
Ah non, alors, nous, ce que nous avons proposé, mais c'est quelque chose qui est assez ouvert, c'est que tous nos personnels en formation doivent faire des stages, et tous nos musées, on a bien vérifié auprès d'eux, accueillent des stagiaires. Je peux vous dire que si dans le cadre des stages, déjà de Master 2, les stages obligatoires pour les conservateurs, dans le cadre du stage long, on demandait à chaque stagiaire de faire pour un tableau ou pour une œuvre d'art l'exercice de quête de provenance à l'aide d'une méthodologie qui reste à expliciter et à définir de façon écrite, je peux vous dire que si chaque conservateur avait fait pour une œuvre le travail, la dynamique positive sera enclenchée, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est aller plus loin que le constat actuel. Je dirais que le rapport Schulman de Chermont était une belle photographie d'un stock, ça a été fait. Maintenant, je pense qu'il faut avancer. Et peut-être y a-t-il eu un malentendu. Peut-être que les musées de France ont considéré que puisque la commission d'indemnisation des victimes des spoliations antisémites existait, eh bien, ça les dédouanait de toute recherche. Et donc là, maintenant, je pense que le quiproquo est levé. Et donc, toutes les personnes, moi, je pense, doivent travailler sur ce sujet. Pour être honnête, les Hollandais, les Allemands et les Italiens, eux, se bougent actuellement parce qu'ils ont connaissance d'un film à très très gros budget que fait Georges Clooney, le célèbre Georges Clooney, et que ces pays ont à cœur de, comment dire, que la sortie de ce film puisse se faire dans un climat relativement apaisé. Et donc, dans les différents pays cités, il y a la volonté de faire quelque chose. Et moi, je me demande si, compte tenu de l'échelle du problème, nous en parlions tout à l'heure, ce qui aiderait la France ne serait pas une approche plus européenne. C'est-à-dire que si les différents, à l'échelle européenne, les différents pays concernés se mettaient au travail, cela permettrait à la fois un échange d'informations peut-être plus simple sur les différents fichiers, cela permettrait peut-être d'afficher. En tout cas, ce qui est sûr, il faut être clair avec le monde des musées, ces œuvres n'appartiennent pas aux musées, ces œuvres n'appartiennent pas à la France, ces œuvres ont été volées, elles ont été pillées, elles ont été spoliées. Donc pour moi, il est très clair qu'il n'y a aucune raison que l'État se les octroie. Ça me paraît clair.
Je vous remercie beaucoup Corinne Bourchou. Donc pour ceux qui veulent approfondir cette question, je conseille la lecture de votre livre. Si les tableaux pouvaient parler, le traitement politique et médiatique des retours d'œuvres d'art pillées et spoliées par les nazis aux presses universitaires de Rennes. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du ministère de la Culture, le site Rose Vallant, qui répertorie l'ensemble des MNR et propose de nombreux documents en ligne. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.